Grand Angle sur Radio Orient.
Merci de nous rejoindre sur Radio Orient. Une décision inédite a été prise à Beyrouth. Le Conseil des ministres a officiellement chargé l'armée libanaise de préparer un plan de désarmement du Hezbollah d'ici la fin de l'année. Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu signé sous médiation américaine qui a mis fin 2024 à plus d'un an de confrontation armée entre le Hezbollah et Israël. L'un des points clés de cet accord stipule que seuls 6 organismes militaires officiels ont désormais le droit de porter les armes sur le sol libanais. Mais si la décision du gouvernement semble claire, sa mise en œuvre s'annonce complexe et hautement politique. Quels sont les vrais enjeux de cette décision? Pour nous éclairer sur ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Marwan Hamadeh, ancien ministre, figure de la vie politique libanaise. Merci d'être avec nous.
Merci de me recevoir.
Cette décision, Marwan Hamadeh, du Conseil des ministres de confier à l'armée le soin d'organiser le désarmement du Hezbollah d'ici fin 2025, est-ce une rupture politique?
Vous l'avez bien dit dans le préambule, et c'est que la décision est claire, l'application est plus complexe. Vous avez exactement mis les points sur les i. La décision est une première dans les décisions des conseils des ministres depuis des années. Depuis l'accord de Taïf, depuis 1992, quand nous avons désarmé les milices des forces libanaises du PSP, Druze et du mouvement Amal, le Hezbollah s'est rebiffé à chaque fois qu'on lui parlait de remettre ses armes, même après le retrait israélien de l'an 2000. Et la grande rupture date de cette date butoir, je l'appellerai, parce que depuis, tous les prétextes ont été pris pour maintenir la présence armée, puis la développer sous d'abord à l'époque de l'hégémonie syrienne, puis quand l'Iran a joué un rôle prédominant au Liban et a fait de la milice du Hezbollah une véritable armée parallèle. Donc, le gouvernement libanais, avec Joseph Aoun à la présidence, Nawaf Salam, premier ministre, ce gouvernement a pris une décision, je dirais, historique. Historique parce qu'elle marque la rupture avec le laxisme dont faisait preuve l'État libanais sous le régime Lahoud et Aoun Michel à l'époque, à l'égard du Hezbollah, où on avait une sorte d'alliance pas claire mais très efficace entre la corruption et les armes. Alors la classe politique acceptait les armes à condition que les armes protègent la corruption ambiante. Aujourd'hui, cette phase est terminée, il y a des réformes qui sont entreprises, il y a l'appui arabe et international, il y a la France qui avait pris déjà les devants dans cette question depuis l'explosion du port de Beyrouth et les initiatives du président Macron. Il y a les États-Unis, évidemment, surtout avec Trump, qui ont pris les rênes et qui sont assez intraitable sur ce problème. Et il y a une attitude arabe très rigide qui dit pas de remise d'armes, pas d'argent au Liban. Donc, pas d'argent au Liban, c'est-à-dire pas seulement il n'y a pas de reprise économique, le pays va rester dans l'ornière de cet enfer où l'ont précipité les précédents gouvernements et régimes, mais aussi pas de reconstruction. Et c'est là où j'ai un argument important auprès de la communauté chiite, qui est une communauté très importante, qui va garder son rôle et qui peut-être le renforcera si elle se départit de ce poids que sont les armes. Les armes ne sont plus un avantage pour elles, sont devenues un poids et un danger majeur après l'élimination de ces chefs, de ces cadres, d'une grande partie de ces troupes. Et donc maintenant, laisser le sud et la banlieue sans reconstruction, c'est vraiment condamner toute la partie chiite du pays à attendre une solution qui ne viendra pas. Alors qu'ils sont partis au gouvernement, ils sont partis de la chambre, ils sont dans l'administration, ils sont dans l'armée. Donc, et sont pas absents. C'est pas une capitulation qui leur est demandée. Mmh. Au contraire, c'est un pas vers la réintégration de l'État libanais, parti au point de vue populaire et au point de vue officiel.
Marwan Hamadeh, le Hezbollah a clairement rejeté l'idée d'un calendrier de désarmement qu'il qualifie de diktat américain. Selon vous, quelle est sa réelle marge de manœuvre aujourd'hui ?
Écoutez, la manœuvre est très réduite. Elle est réduite parce qu'il évolue par cette attitude rigide entre deux risques et deux périls. Celle d'une reprise des attaques israéliennes et peut-être du développement de ces attaques à de nouvelles régions du Liban, et également à un choc avec les autres composantes du pays, c'est-à-dire les autres communautés, les autres partis, qui sont unanimes à réclamer le désarmement du Hezbollah. Tout le monde est désarmé, tout le monde doit devenir désarmé, tout le monde doit rester désarmé, seule l'armée libanaise doit prévaloir. Ceci demande évidemment un soutien également étranger à cette armée qui n'est pas encore super puissante, mais la France peut conduire, et elle a essayé de conduire, mais les Américains sont assez dubitatifs là-dessus, ils veulent des mesures libanaises pour renforcer l'armée libanaise. Les Arabes sont également, comme je l'ai dit, assez intraitables sur ce problème. Et donc, le Hezbollah n'a pas les éléments qu'il avait quand il s'est lancé dans les fameux assassinats qui ont commencé avec Hariri et qui se sont ensuite traduits par des coups d'État, investir Beyrouth, et la mainmise sur l'État libanais qui hier a au moins sur le papier cessé d'être.
Alors pour appliquer ce désarmement, le Hezbollah exige des contreparties pour accepter d'envisager ce désarmement. Est-ce que ces contreparties ou ces demandes sont réalistes ?
Elles sont légitimes. Le retrait des forces israéliennes doit être complet. D'ailleurs, toutes les résolutions des Nations Unies qui concernaient Israël, qui concernaient la Syrie, qui concernaient le Hezbollah sur le désarmement des milices, n'ont été appliquées par aucune des parties, sauf les Syriens qui sont partis par la force en 2005 après les assassinats, et le Hezbollah qui se retrouve maintenant devant cette décision de l'État libanais. Il reste Israël. Et pour faire pression sur Israël, nous devons compter sur la communauté internationale et principalement, il faut l'admettre, sur les États-Unis. Pour obtenir le retrait des 5 points encore occupés et l'arrêt des attaques et des survols, il y a une autre décision qui va être exposée devant le Conseil des ministres demain, c'est-à-dire la lettre de M. Barak, la lettre des Américains avec les échanges de bons procédés entre le Liban et Israël, c'est-à-dire retrait des armes d'un côté, retrait des territoires de l'autre, et ceci va nécessiter également un calendrier qui soit acceptable par toutes les parties.
Pour finir, Marwan Hamadeh, en quelques mots, si le processus échoue, quelles pourraient être les conséquences pour le Liban sur le plan diplomatique, d'abord, sécuritaire et même économique ?
Désastreuse. Sur le plan militaire, ça nous expose à les plus grands périls devant un Israël qui est déchaîné dans les directions, un Premier ministre dont on ne sait pas comment il réagit chaque jour. On a devant nous le spectacle désolant et de Gaza et sur le plan intérieur, par la poursuite de la faillite avec peut-être des mesures supplémentaires, des sanctions supplémentaires sur une économie déjà complètement effondrée et sur le plan politique par des dangers sur même l'unité du pays à la lumière de ce qui se passe dans toute la région, et surtout en Syrie et en Irak d'ailleurs.
Marwan Hamadé, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Je vous en prie, merci.
Je rappelle que vous êtes ancien ministre et député au Parlement libanais. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur Radio Orient.
C'était Grand Angle sur Radio Orient.